Bien, bonsoir. Je suis vraiment très heureux, et ce n'est pas un euphémisme, de parler avec Monsieur Tillinac ce soir. On m'entend ? De son dictionnaire amoureux du catholicisme. Alors, je ne le présente pas, bien sûr, hein, c'est évident. C'est le livre, cependant, d'un Corrézien, d'un Limousin. Et c'est déjà pour moi un livre paradoxal, puisque ça vient des terroirs les plus détachés du catholicisme en France, pratiquement, mais en même temps d'un département et d'un diocèse qui a donné deux papes, un archevêque intégriste, le seul de l'histoire française, un héros de la Résistance, auquel vous dédiez d'ailleurs votre ouvrage, l'abbé Jean Espinas, et ce paradoxe, évidemment, est tout dans votre personnalité. Alors, c'est un bonheur de lecture, c'est un dictionnaire vraiment formidable. Il y a une analyse dense et une tonalité très franche, très directe. Et quelquefois, j'ai cru noter des ressemblances de fougue avec Maurice Clavel, dans certaines affirmations de foi, le feu qu'avait Maurice Clavel dans des livres aujourd'hui anciens. Mais ce n'est pas du tout du plagiat, c'est, au contraire, c'est un hommage dans mon esprit. Alors évidemment, page 13, vous dites un peu de mal des théologiens et surtout des historiens dont je suis. Vous dites 1000 historiens ont parlé du catholicisme. Au fond, ils n'ont rien dit. Écoutez, on va quand même dire un petit peu quelque chose.
Au contraire, j'ai dit 1000 historiens pourraient en parler mieux que moi.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, oui, je l'ai pris. Je l'ai pris négativement. Et vous avez donc fait cet ouvrage. Et je vous poserai une première question. J'ai noté dans les entrées, dans la tonalité et aussi dans un certain nombre de réflexions, un livre très personnel, un itinéraire très personnel, à la fois teinté de nostalgie, pas vraiment de passéisme, mais de nostalgie et de volonté d'ouverture. Alors par exemple, les entrées qui sont tout à fait belles de Metz, de latin, enfant de cœur, c'est vraiment extrêmement prenant, et en particulier ce que vous dites de votre confesseur, qui était un religieux. Alors, est-ce un livre de nostalgie, mais d'une nostalgie créatrice ? Est-ce qu'il y a une entrée particulière qui, dans ce domaine, vous définirait mieux que d'autres ?
Non, bonsoir, merci de votre présence, qui m'honore. Mais justement, je suis obligé de dire deux mots sur la collection elle-même. C'est une collection qui s'appelle Dictionnaire amoureux. En somme, c'est un abécédaire subjectif qu'on propose à un écrivain sur un thème qui est censé lui convenir ou dont l'éditeur estime qu'il a quelque légitimité. Et la dernière fois où j'étais venu dans cette même salle Mola, c'était il y a 2 ou 3 ans, pour un autre dictionnaire amoureux que j'avais fait, dictionnaire amoureux de la France. Pourquoi ? Parce qu'il me semblait que le moment était peut-être venu d'en venir aux fondamentaux, de rappeler qu'est-ce que c'est que c'est qu'un siècle d'histoire géo de ce vieux pays, à quoi rime ce patrimoine architectural, spirituel, paysager, gastronomique, historique, qu'est-ce que c'était qu'être français. D'ailleurs, peu après, les pouvoirs publics ont cru devoir lancer un débat sur l'identité nationale. Moi, ce n'était pas l'identité nationale du tout, c'était l'identité de la France. Alors, quand j'ai proposé à mon éditeur d'écrire un dictionnaire amoureux du catholicisme, j'ai dû penser, plus ou moins consciemment, que le moment était venu d'aller encore plus loin dans la recherche de ce qui nous structure, de nos fondamentaux, de quelle est l'architecture profonde de nos sentiments, de nos valeurs, de nos façons de penser, de concevoir, d'organiser, de prier, d'entretenir des rapports avec autrui, avec l'enfance, avec la féminité, avec la démocratie, et tout ça procède du catholicisme romain, hein, je pense. Entre entre l'édit de Constantin et surtout entre le baptême de Clovis et le grand siècle, le XVIIe siècle inclus, hein, ça fait quand même 12 siècles, dans lesquels la France s'est constituée comme telle, hein, sur la damasserie de ses terroirs, une personnalité nationale, pour le coup, est apparue. Elle doit beaucoup au catholicisme romain, et comme c'est la religion de nos pères, comme on dit, la religion de mon enfance, et c'est la religion de la civilisation qui a formé la civilisation occidentale, il m'a semblé que c'était le moment, j'avais envie, et donc je me suis lancé dans cette entreprise périlleuse quand même, parce que je ne suis pas un historien de l'Église, je ne suis pas un théologien, je n'ai pas de légitimité particulière, je suis encore moins religieux, je suis un catholique de base, fidèle de base, grand pécheur devant l'Éternel, très grand même, et donc il fallait essayer de laisser venir en moi, comme ça, au fil du cœur, de l'esprit, peut-être de l'âme, si j'ai le privilège d'en avoir encore une à mon âge avancé, il fallait laisser venir tout ce que m'inspire ce mot, qu'est-ce qui récapitule ce mot catholicisme romain. Voilà. Alors, la nostalgie, c'est pas... je dirais que c'est le pain et le vin de tout écrivain. On se coltine contre le temps. C'est un sentiment qui m'est assez naturel, d'autant que je ne suis pas un très grand amoureux du monde moderne et que je suis à peu près convaincu que la civilisation occidentale est en train de mourir. Bon, pas le catholicisme, gratte au ciel, pas l'Église, la civilisation occidentale. Et l'Église catholique est universelle, elle a structuré l'Occident, elle ne périra pas avec lui, si tant est qu'il périt. Alors la nostalgie, oui, parce qu'un catholicisme populaire, culturel, comme on dit, que j'ai connu dans mon enfance, quoi, il y a beaucoup de gens allaient à la messe, presque tout le monde était baptisé, tout le monde se faisait enterrer à l'église, et beaucoup de gosses comme moi étaient élevés chez les curés, j'ai baptisé, j'ai fait ma confirmation, ma première communion, ma communion solennelle, je sais ce que c'est que qu'un tantum ergo du premier vendredi de mois avec le Saint-Sacrement, qu'un Veni Creator à la Pentecôte. J'ai été enfant de cœur, j'ai beaucoup aimé ça et j'en ai un beau souvenir. J'ai été aussi cet être ébloui d'un sentiment de pureté, à vrai dire, assez éphémère, qui me portait à une espèce d'amour comme ça pour le monde au sortir du confessionnal où j'ai vidé mon sac de bêtises, toujours les mêmes, hein, y a pas c'était rien d'original. J'ai connu tout ça, et tout ça est en train de disparaître. On est au bout d'une déchristianisation qui, à vrai dire, a débuté au XVIIe siècle en Europe. On est le dos au mur et peut-être face à un précipice. J'ai même l'impression qu'on peut pas aller beaucoup plus loin dans ce qu'on appelle la déconstruction. J'ai bien lu les philosophes, je suis comme le pape Benoît XVI, j'ai lu les philosophes contemporains, et quand on a lu Derrida et Lyotard, bon, ben maintenant, ou on se flingue, ou on reconstruit, sur le plan moral et spirituel. Donc, voilà, pour répondre à votre question sur la nostalgie, oui, j'ai quand même le regret, le sentiment quand même d'un reniement de ce qui a constitué nos racines culturelles et auxquelles devraient être attachés tous les Français, qu'ils soient croyants, agnostiques ou athées. Ce reniement, c'est pas seulement la France, puisque les chefs d'État des pays membres de l'Union européenne ont cru devoir refuser d'inscrire même dans le préambule de leur texte institutionnel toute référence aux racines chrétiennes de l'Europe. Si les racines chrétiennes de l'Europe sont occultées, il n'y aura jamais d'identité possible de l'Europe, et d'ailleurs, il n'y en a pas, et ça marche pas. L'Europe, c'est un espace où il y a des clochers, des dômes et des monastères, et c'est rien d'autre, et ça s'arrête quand il n'y en a plus. C'est assez simple à définir, encore une fois. Ce qui n'empêche pas l'attachement commun de tous les peuples d'Europe à ce qu'on appelle la laïcité, qui consiste à revendiquer le distinguo total entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, et à concéder les clés de à concéder à César les clés de la cité terrestre. Tout le monde est d'accord là-dessus. On se demande d'ailleurs donc on peut se demander pourquoi ce reniement, puisque le problème se pose plus, personne en Europe, et encore moins en France, et surtout pas le clergé catholique, ne prétend à la moindre théocratie. Et les bisbilles entre Don Camillo et Pépon, que j'ai encore connues dans mon village en Corrèze quand j'étais gosse, sont obsolètes depuis longtemps. Voilà, bon, j'ai répondu trop longuement, excusez-moi.
Non, pas du tout, au contraire. Alors, dans les nostalgies, mais ce n'était pas une critique, vous l'avez compris.
Non.
Moi, j'ai très bien saisi votre pensée. Et elle apparaît très clairement dans votre dictionnaire. Alors vous parlez, vous vous risquez dans des comparaisons dangereuses dans le cadre de la nostalgie entre le Bordeaux et le Bourgogne. Mais là, je vous laisse la liberté, la liberté de vos affirmations.
Non, c'est pas mes.
Avec Monsieur Pitt là sur le vin de messe.
C'est pas mes affirmations. Heureusement que mon ami Jean-Paul Kaufmann n'est pas là ce soir. Sinon, j'essuierais une salve. Le Jean-Robert Pitt, l'ancien président de la Sorbonne, le géographe, le plus grand spécialiste mondial en matière d'œnologie et terroir vinicole, laisse entendre que pour des raisons historiques, le vin de Bordeaux a parti lié avec l'Europe du Nord, donc avec le protestantisme, et puis il est littéraire, c'est un peu le vin du regret, il a inspiré des écrivains plutôt tristes ou mélancoliques, depuis la ville de Mirmont jusqu'à Pierre Veillet. Et tant d'autres, tandis que le vin de Bourgogne, vin des rois de France, vin de la papauté, hein, bon, pour des raisons évidentes, la Saône, le Rhône, plus franc du collier, en dehors de plus rabelaisien, plus gaillard, plus gaulois, moins mélancolique, donc aurait des rapports plus intimes avec le catholicisme. En tout cas, l'œnologie bourguignonne, son développement, son essor est à mettre en parallèle avec celui de Cluny, puis de Citeaux, hein, oui. Puisque c'est le clergé régulier qui a initié d'ailleurs la grande révolution agricole des 12e et 13e siècles, qui a métamorphosé l'Occident et qui est arrivé à l'apothéose culturelle du temps des cathédrales, comme on dit.
Oui, et vous...
Mais je bois très volontiers
des
bons Bordeaux aussi.
Bien.
On peut être un peu écuménique.
Vous êtes écuménique, et alors vous avez... Pour rester sur Bordeaux un petit peu, si vous voulez bien, une minute, vous parlez de François Mauriac en termes remarquables, émus. Vous lui ressemblez au fond un petit peu, dites-vous. Vous parlez de Verdelais, et ce qui pour Bordeaux est évidemment quelque chose d'extrêmement important. Et d'un autre côté, effectivement, vous êtes très attiré par Cluny. Par Cluny, par Citeaux et par les ordres religieux. Alors, sur Mauriac, vous dites que pour certains, ça n'est pas un très grand écrit. Moi, il me semblait que à Bordeaux, en fait, Mauriac, on trouve que c'est le plus grand écrivain depuis Montesquieu.
C'est le seul écrivain qui a droit à une entrée. J'ai lu des livres, la littérature. A contribué quand même à me former avec l'histoire et la philo, et un peu la théologie aussi. Et à l'âge où on se cherche, à l'âge où la foi bat de l'aile, je ne l'ai jamais perdu, mais à l'adolescence, on est un peu con, on est anticlérical, la foi, elle rase un peu les murs, on est toujours du parti des ricaneurs, on est bête, c'est comme ça, et puis on cherche dans les livres des miroirs, des complices, et celui que j'ai trouvé à l'adolescence, c'était François Mauriac, et j'y suis resté fidèle. Non, je dis simplement que le jugement de la postérité littéraire est assez nuancé à Paris, dans les sphères des gens de lettres sur lui. Pour moi, c'est celui qui me reste le plus cher. J'ai beaucoup lu, évidemment, des écrivains catholiques ou pas catholiques. Certains m'ont marqué, essentiellement Bernanos, Peggy et Francis James, le poète, mais aucun n'a été plus près de moi parce que... Et pourtant, il y a deux générations d'écart. Lui, là, c'est une génération marquée par le sillon. Puis il a affronté des grands dilemmes. Moi, il n'y a pas eu grand-chose. Hein. Il y a eu Vatican II, mais j'étais trop jeune pour en percevoir la portée, et mai 68, pas grand-chose. C'est même trois fois rien. Si vous voulez, ce moment où il y a à la fois l'appel de la pureté puis l'appel de la chair, où on veut s'exalter, on voudrait consommer de l'absolu tout le temps, comme ça, de façon un peu anarchique, puis en même temps, on lorgne sous les jupes avec une concupiscence louche qui nous perturbe, moi, ça me perturbait même beaucoup. Cette plainte, ce gémissement du vent à la cime des pins dans ces Landes de Gascogne, bon, ben moi c'est à peu près le même, c'est des châtaigniers en Corrèze, c'est sacristie de race campagne glaciale avec un crucifix rouillé et quelques bondieuseries annexes et un prêtre désabusé comme ça, un peu comme ceux de Bernanos d'ailleurs, j'ai connu ça aussi. Donc, si vous voulez, tout a été en sorte que cet écrivain est un miroir. J'ai partiellement choisi de faire mes études à Bordeaux pour me rapprocher de Mauriac. Et avec mon Solex, je tournais autour de Malagar sans oser d'ailleurs le héler. Claude Mauriac m'a dit plus tard que ça lui aurait fait plaisir, mais j'osais pas. Et je poussais jusqu'à Verdelet parce que j'avais lu les textes où il évoque le pèlerinage et puis la petite sainte, la petite martyre romaine dont la statue de cire est dans une chasse à Verdelet. J'y étais encore, j'étais un colloque Mauriac au mois de novembre, je suis repassé à Verdelet. Donc voilà, c'est d'un miroir. Il n'y en a pas eu beaucoup, il y a eu Pascal et il y a eu Teilhard de Chardin. Moi, c'est des personnes avec lesquelles j'ai beaucoup vécu et qui, à un titre ou à un autre, m'ont permis de mieux vivre mon catholicisme dans les moments où ça n'allait pas de soi, disons.
Oui. Mais vous parlez aussi, vous voyez, j'ai vraiment lu de votre Lediger, pas tout entier, mais enfin. Et vous avez quand même des références très intéressantes. Par exemple, vous citez trois Anglais dans les références du catholicisme, un Italien. Je suis vraiment dans les auteurs. Hein. Alors, vous citez par exemple, pour l'italien, et je me permets de vous en féliciter, en tant qu'italianiste, c'est Manzoni, qui a été qui est l'auteur lu par tous les papes du XXe siècle, jusqu'à Jean-Paul II, c'est leur livre de chevet. Et pour les Anglais, vous parlez de trois Anglais et essentiels. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots qui vous paraissent emblématiques? C'est des entrées très intéressantes. Là, on arrive au cœur. Thomas More, Thomas Becket et Newman.
Ouais.
Là, vous avez une trilogie anglaise un peu paradoxale sur le catholicisme. Vous regrettez le schisme anglican,
je crois l'avoir dit, donc le catholicisme est universel. Bien entendu, j'ai été amené peut-être à privilégier involontairement des saints ou des saintes, des théologiens, des lieux de culte français, bon, parce que je les connais mieux, mais le catholicisme a connu des moments, y compris des moments culturels fabuleux, en Italie, en Espagne, dans les Flandres, en Germanie et en Angleterre. Alors en Angleterre, moi c'est des fascinations personnelles, hein, c'est un dictionnaire subjectif. Bon, Thomas Becket, c'est justement le refus du spirituel de se soumettre au temporel. C'est une espèce de courtisan qui est dans la cour d'Henri II Plantagenet, qui a fait de très bonnes études en Normandie. Hein, ces Anglais n'ont jamais été qu'une colonie des Normands au départ de la France. Il ne faut pas trop leur dire, ils n'aiment pas, mais enfin, c'est historiquement vrai. À cette époque, c'était vrai. Il devient le courtisan préféré, il devient chancelier du royaume et il finit par être nommé à la plus haute charge religieuse, c'est-à-dire archevêque de Canterbury, où il y avait une fameuse école cathédrale dans laquelle s'était illustré saint Anselme, le père de la scolastique, le premier scolastique, celui de la fameuse preuve ontologique de l'existence de Dieu. Bon, c'était un bon vivant, enfin c'était une espèce un de ces énarques qu'on voit traîner autour de nos présidents ou de nos premiers ministres, vous voyez, le courtisan type banal. Et puis la dignité de sa charge s'empare de lui, il renonce à être un osseur, il devient ascétique, il s'occupe une vie de rien, il porte une bure, il s'occupe des pauvres, et puis il s'oppose au roi, quant aux bénéfices ecclésiastiques, tout ça est politique, il s'oppose au roi qui veut devenir le patron, le protecteur de l'Église d'Angleterre, et accessoirement donc récupérer les bénéfices les bénéfices ecclésiastiques, hein, ceux des évêchés, ceux des monastères. C'était beaucoup, beaucoup d'argent. Il s'oppose jusqu'au martyr, et Henri II, Plantagenet, le fait assassiner devant sa chaire, dans la cathédrale de Canterbury. Il est entouré là, très vite, il devient un saint populaire, il l'est toujours. C'est un très grand lieu de pèlerinage. Et d'ailleurs, Henri II, Plantagenet, c'est lui qui, en deuxième noce, a épousé là-bas, tout près d'ici, à Aliénor d'Aquitaine, dans la cathédrale Saint-André de Bordeaux. Et c'est celui-là, Henri II de Plantagenet. Eh bien, il a été obligé de faire amende honorable. Il s'est soumis au pape et il est allé s'humilier publiquement devant la tombe de celui qui avait été assassiné. Je trouve que la symbolique politique, politico-religieuse, est forte. Et Thomas Mann, c'est la même, un peu, hein, lui aussi. Mais c'est au moment de la Renaissance. Et c'est quelqu'un qui, comme tous ceux qui vont devenir des protestants, c'est un ami d'Erasme, c'est un grand humaniste, un grand érudit. Bon vivant, marié, père de famille, chancelier du royaume, très proche du roi Henri VIII, confident et homme de confiance du fameux Henri VIII, n'était pas fait d'ailleurs pour le martyr, et il faisait partie de ceux, comme tous ceux qui vont devenir protestants, qui considéraient qu'il y avait beaucoup d'abus dans l'Église, et qu'il fallait y mettre fin, il fallait une grande réforme. C'est-à-dire qu'il préconisait pour tout de suite ce qui a été fait un peu trop tard au Concile de Trente. Et il a fini par se dresser contre le roi sous un autre prétexte, mais c'est toujours la fidélité spirituelle au pape qui, à un moment donné, peut s'opposer à la fidélité politique ou personnelle à un chef d'État. Et c'est à propos de ça. Il avait épousé une femme, qui, je ne me rappelle plus son nom d'ailleurs, il en a épousé tellement. Il était amoureux d'Anne Boleyn, comme vous savez, il voulait l'épouser, donc il voulait divorcer de... Catherine d'Aragon. Catherine d'Aragon. C'est bien d'avoir un historien à ses côtés. De Catherine d'Aragon qui n'avait pas pu lui donner d'héritier mâle. Et donc, après l'avoir fait incarcérer à la Tour de Londres, Henri VIII l'a fait zigouiller. Il est divorcé et il a épousé Anne Boleyn. Il a d'ailleurs fait zigouiller plus tard. Et le résultat des courses, on a eu une église anglicane dont le roi ou la reine d'Angleterre est aujourd'hui encore le chef temporel et spirituel. Ce qui est fâcheux pour l'unité de l'Église. Mais bon, c'est un beau symbole. Et donc... Et à partir de ce moment-là, il y a eu beaucoup de martyrs catholiques persécutés jusqu'à la fin du règne d'Élisabeth Ier, du 16e, 17e siècle, beaucoup, beaucoup. Et un antipapisme assez récurrent jusqu'au 19e siècle, où un de mes théologiens préférés, le cardinal Newman, qui était lui-même pasteur anglican, grand bourgeois, très playboy, un patricien anglais, 50 ans plus tard, il aurait joué au golf et au rugby, enseignant à Oxford, s'est converti au catholicisme. Chez les oratoriens, j'y suis particulièrement sensible parce que j'ai été élevé par les pères oratoriens, et a produit une œuvre théologico-littéraire, parce qu'il y a beaucoup de sensibilité qui me convient. Il y a des théologiens qui conviennent plus ou moins. Lui, il me convient bien parce qu'il fait dans la religiosité catholique, il perçoit tout ce qu'il y a de de sensualité, d'esthétique. Il parle carrément du parfum de Dieu dans une belle église, ou romane, ou gothique, ou baroque. Il est sensible à tout ça, et moi, je le suis beaucoup. Donc, il est devenu quelqu'un que j'admire et que j'ai lu avec beaucoup de passion. Voilà, et donc, ça, ces trois figures, plus Saint Anselme, un siècle avant Thomas Becket, honore grandement l'Église d'Angleterre et le catholicisme universel, je trouve.
Oui. Avant de venir à des questions sérieuses, à nouveau, je voudrais dire...
C'est pas sérieux, les Anglais.
C'était sérieux, mais je voulais que vous parliez... C'est difficile que vous en parliez, il faudrait lire des extraits, ce que je ne veux évidemment pas faire. C'est un livre très humoristique.
Ah bon ?
Ah oui, il y a des moments tordants. Quand vous dites, par exemple, du pain, du vin, du grégorien, c'est excellent. C'est une définition de la messe vous l'écrivez, hein, qui est tout à fait intéressant. Quand vous faites des entrées, et peut-être pourriez-vous nous dire, je vais vous dire ce qui, moi, m'a vraiment amusé, avant, parce que votre livre est plaisant, il n'est pas seulement intéressant, c'est pas pour faire la réclame, hein, je le pense vraiment.
Vous pouvez.
Je peux faire la réclame, ouais, mais je ne suis pas là pour ça. Non. Je suis, comme Thomas More, un homme libre.
Très bien.
Donc, c'est sincère. Par exemple, votre entrée, page 267, que vous intitulez « Grenouille de bénitier », j'en conseille vraiment la lecture. On passe un bon moment. D'ailleurs, vous les défendez.
Oui, je les réhabilite.
Vous défendez la grenouille de bénitier, après l'avoir un peu assommée au départ.
Ben, c'est-à-dire, comme, oui, vous savez, comme beaucoup de prêtres de paroisse eux-mêmes, j'ai été du parti des ricaneurs. Il y a toujours dans une église vide, quand on y entre comme ça, dans la pénombre d'une église, une dame hors d'âge qui nettoie les vases ou qui s'occupe des cierges et qui est comme une petite souris dans l'ombre, dans le sillage d'un prêtre, et on lui suppose des malheurs exemplaires et un abus de vertu. Pour un peu, on lui prescrirait une bonne cuite ou quelques amants. Et puis finalement, je me suis dit, finalement, c'est un peu les vestales d'un temple déserté. Il n'y aurait pas elle. D'abord, le prêtre qui rigole, il serait bien seul et il n'y aurait pas elle dans l'église. Ben, l'église, elle serait tout à fait vide. Et finalement, je finis par les voir plutôt comme des héroïnes de Balzac, que je les trouve assez admirables, d'autant que leur catholicisme est un peu désuet. Il me rappelle celui de ma grand-mère, hein, qui était le catholicisme rustique, celui encore du curé d'Ars, celui des curés de Bernanos. Hein. Ma grand-mère, tout ça était entaché de superstition. Elle lisait son chapelet à longueur de journée et elle priait Dieu qu'il daigne me refiler le bac au mépris de toute morale et de toute logique, y compris d'ailleurs au détriment éventuel du voisin qui l'aurait mérité davantage. Hein. Et elle s'agenouillait en passant devant chaque croix de pierre et des calvaires en pierre. En Corrèze, il y en a beaucoup. Il y a dans cette salle un de mes cousins qui pourrait l'attester. Et finalement, ce catholicisme-là, cette forme de piété, j'en ai hérité d'une certaine façon. C'est aussi ce qui m'a rapproché de Mauriac, même si le sien est très différent dans son approche théologique. Et non seulement je veux pas le renier, mais finalement la grenouille de bénitier, c'est une sainte dans son genre et je l'admire. Dans l'église la plus moche, il n'y en a pas beaucoup de moches, mais enfin celle fin 19e, on trouve une statue en plâtre également moche. Et c'est une sainte locale, elle nous en parle avec vénération. On finit d'abord par admirer cette sainte et puis on finit par lui arracher un sourire affectueux à la grenouille de bénitier. Et on se dit que... on se dit que l'Église est bien contente de la voir. Oui. Voilà.
Et toujours dans le... Je reviendrai sur cette affaire de grenouille, parce que c'est important. Il n'y a plus de grenouille de bénitier aujourd'hui. C'était il y a 30 ans. Enfin, disons ça comme ça.
Non, il y en a encore beaucoup dans les églises de campagne.
Heureusement, en ville, il y a des laïcs engagés.
Aussi, mais...
Oui, il y a de bons... Est-ce que vous pourriez nous parler, si vous voulez bien entendu, d'un passage que j'ai trouvé bon. Il y a donc Amillo, ça c'est intéressant, mais il y a aussi Tintin.
Ouais.
Tintin, héros catholique.
Oui, enfin, bien sûr. Oui, donc Amillo et Pépone, on a, enfin, les moins jeunes d'entre vous ont sûrement connu ça comme moi, ce moment, comment dirais-je, crépusculaire, hein, à la fois de l'histoire de l'Église et de l'histoire de la pédagogie républicaine, où le curé de la paroisse et l'instite du village se tiraient la bourre et se disputaient les âmes. Chez moi, l'instite gardait les gosses un peu tard pour qu'ils arrivent en retard au caté, le prêtre vitupérait cet instituteur en chair, et en définitive, match nul par chaos mutuel, quoi. La férule et le goupillon ont perdu un match historique, hein, ensemble, et c'est fini. Et Pépone et donc Amillo, là où ils sont, là-haut, là-bas, ils doivent bien rigoler ensemble. Et, y compris d'ailleurs des restes d'anticléricanisme qui sont comme ça, qu'on voit ressurgir de temps en temps en France, et qui n'ont tout simplement plus d'objets, quoi. Et on le sent bien. Alors, Tintin, oui, mais Tintin, ça peut paraître paradoxal dans la mesure où, dans aucun des albums, on le voit rentrer dans une église. Il y a juste un petit clocher qui pointe, je crois, à Moulinsart, à côté de la gare, dans un des... non, je ne sais plus quel album, donc chez Ad Hoc. Et pourtant, c'est un héros catholique, c'est même le grand héros catholique du XXe siècle. Bon, nul n'ignore qu'Hergé qui était catholique et très très marqué par la culture, par le scoutisme, vous savez, a produit... une réincarnation du chevalier du Moyen-Âge. Il y a chevalerie dans mon dictionnaire. Qu'est-ce que c'est que la chevalerie ? C'était une façon pour le catholicisme d'essayer de civiliser un peu, d'adoucir les pulsions guerrières des hommes, qui sont évidemment universelles dans le processus de l'adoubement du chevalier. Il y a un engagement devant Dieu, ce qui, donc il y a un référent à ne pas matraquer quelqu'un à terre, ne pas tuer quelqu'un de désarmé, pas s'en prendre aux femmes, aux enfants, aux vieillards. Enfin, il y a un certain nombre de valeurs parfaitement évangéliques qui sont prônées, qui étaient fort inégalement respectées. Sans elles, probablement, ça serait pire. Et Tintin, ben, il défend la veuve, l'orphelin, il défend les types qui sont... méprisés, humiliés dans leur culture, sur les Indiens, les Africains, les bouddhistes même. Il y a une espèce de respect de toutes les cultures religieuses. Hein. À la fin, quand Tinka, ben, il s'engage à ne pas révéler son secret, parce qu'ils ont droit à leur secret et leur culte est respectable. C'est un peu un ange, il n'a pas trop de sexe, il n'a pas trop d'âge, et c'est pas un saint, parce que bon, il a une... Il lui arrive de faire le pit comme un enfant quand il est content. Il lui arrive d'avoir un peu peur. Il lui arrive, les sangs ont eu peur, mais il lui arrive d'avoir des désirs profanes, notamment le désir d'aller presque voyeuriste, d'explorer une affaire qui lui paraît mystérieuse. Mais quand même, c'est un. Il se rapproche de la sainteté par la. Son obstination à défendre le pauvre, le pauvre, la veuve et l'orphelin, c'est les valeurs de la chevalerie. Heureusement que les gosses ont eu ça au XXe siècle, ça équilibre un tout petit peu les insanités télévisuelles qu'on leur fait ingurgiter depuis une trentaine d'années tous les jours. Malheureusement, je ne sais pas si l'antidote est suffisant. Sûrement pas. Un autre débat. Donc, il méritait sa place. Oui, j'ai toujours trouvé. Moi, je voyais quand j'étais gosse, j'étais le petit. Quand j'allais au catéchisme, donc je servais à la messe, je faisais mes conneries, beaucoup. Et je voyais une parfaite concordance entre ce que je comprenais du caté et prôner concrètement dans son action Tintin, dont j'adorais la lecture.
Alors, si on revient à des sujets plus ecclésiaux, vous traitez beaucoup de thèmes, et si vous voulez, c'est normal, hein, c'est votre imaginaire, votre vécu. Ce que vous dites, ce que vous avez dit tout à l'heure en introduction, au fond, on aurait dû commencer par ce dictionnaire amoureux. Alors, évidemment, il y a des questions qui fâchent. moi, elle ne me fâche pas, mais elle fâche les synodes actuels, et que vous abordez d'une manière, je dirais, différente. C'est la question des femmes, en particulier. La question des femmes dans l'Église, qui est une question, je dirais, c'est le serpent de mer de tous les synodes diocésains, et c'est un thème récurrent et peut-être légitime, hein, moi je pose simplement des questions. Vous avez des modèles féminins, effectivement, que vous traitez avec respect et, je dirais, admiration. Bernadette, Thérèse, qui sont vraiment... Thérèse d'Avila aussi. Beaucoup. Et vous avez une entrée femme. Et dans cette entrée femme, vous montrez le rôle capital des femmes dans l'Église, mais pas celui que certaines femmes d'aujourd'hui peut-être attendraient.
Oui, bon, la féminité, c'est peu dire qu'elle a occupé mon existence. Et ça procède directement du catholicisme. D'abord, aucune autre religion, d'abord, n'a de religieuse. Les religieuses, il y en a beaucoup, là. J'ai un entrée bonne sœur, la bonne sœur à Cornette de la Grande Vadrouille, des films avec de Funès, on la voit moins, mais des centaines de milliers de religieuses, moi je les ai vues en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, là où il y a des pauvres, des milliers, là où les mecs des ONG ne vont pas avec leur 4x4, elles y sont, et au quotidien, et c'est... Et bon, c'est... La mère Teresa et les sœurs Emmanuel en sont là... Les figures symboliques, mais il y en a beaucoup. Et c'est la seule religion qui a des religieuses dans l'action caritative et des religieuses contemplatives. Moi, j'ai une tendresse particulière pour les carmélites, peut-être parce qu'adolescent, j'ai lu le dialogue des carmélites de Bernanos et vu le film magnifique de Brugberger. Avec ces petites héroïnes qui vont à l'échafaud en chantant le Veni Creator, qui est mon hymne préféré. C'est pour ça qu'il y a une entrée Veni Creator. La féminité a une place immense dans le catholicisme et qui a ultérieurement complètement construit notre imaginaire quant à l'éternel féminin. Donc, il y a toutes les figures de notre désir et se soumise. Bon, d'abord, je rappelle que le Christ ressuscité s'est montré à une femme considérée, probablement à tort d'ailleurs, comme une femme de mauvaise vie, une courtisane, une espèce de pute, Marie-Madeleine. Et au moment où il est entre les deux, il a ressuscité d'entre les morts, mais il n'y a pas encore l'ascension. Nos limes étant gérées. Bon, c'est Marie-Madeleine. Et très vite, d'ailleurs, les théologiens orientaux, dès le 2e, 3e siècle, considèrent que c'est elle la fondatrice du christianisme, hein, et pas saint Paul. C'est en Occident qu'on considère que c'est saint Paul. En tout cas, ça reste un personnage majeur qui donne à la catholicité, qui donnera plus tard à l'art catholique, sa charge de sensualité. L'amour éperdu d'une femme pour un homme. C'est de ça qu'il s'agit. Le culte de la Vierge. La Vierge, c'est pas grand-chose dans les évangiles. C'est la mère du Christ, et puis après, il part prêcher. Il y a un moment, il lui fait comprendre que c'est pas ses attachements tribaux, c'est pas son problème. Et puis, on la voit au calvaire, et il lui dit femme, voici ton fils, voici ton fils. Puis après, on croit savoir qu'elle a foutu le camp vers Éphèse avec saint Jean, on n'en sait rien. Enfin, elle n'a pas un rôle. Or, tout de suite en Orient, le culte se propage. Elle devient un personnage d'intercessrice, il n'y a pas de mot féminin, absolument extraordinaire, à telle enseigne que le concile d'Éphèse, au IVe siècle, dogmatisera ce culte et la décrétera mère de Dieu, Théotokos, mère de Dieu. Alors, à partir du moment où les premiers croisiers reviendront et vont ramener le culte de la Vierge en Occident, et à partir de là, on peut lire l'histoire de notre art occidental, son évolution, même l'histoire de l'érotisme occidental à travers toutes les interprétations de la Vierge dans la peinture et dans la sculpture, hein, depuis Giotto jusqu'à Rouault. aujourd'hui. Hein, donc, elle aura chaque culture va s'approprier la Vierge pour en faire le personnage central d'une la figuration d'une féminité idéale. Alors évidemment, féminité idéale. Donc, il n'est pas très légitime de dire que la femme n'a pas de la femme n'a pas de d'importance dans la religion catholique. Elle en a plus que n'importe où ailleurs. Elle n'est pas admise au sacerdoce. Elle n'est pas admise au sacerdoce. C'est pas dogmatique, c'est réglementaire. Si le pape le décide demain matin, les femmes pourront devenir prêtres. Il n'y a pas rien. C'est pas dogmatique. Bon, pour le moment, une certaine approche de l'altérité des genres qui peut évoluer dans le temps peut amener un pape tôt ou tard à dire les femmes peuvent être beaucoup moins de choses sont dogmatiques qu'on le croit, les femmes peuvent être admises au plein sacerdoce, donner l'Eucharistie. Quand j'étais gosse, l'idée qu'un laïc, comme on le voit maintenant presque toutes les semaines, je vois le dimanche, donne l'Eucharistie, nous aurait paru une profanation. Il se serait fait casser la gueule à la sortie de l'église. Bon, ça gêne personne. Il faudra que tous les débats sur les prêtres doivent-ils se marier ou pas, tout ça n'a aucun intérêt. C'est réglementaire, c'est pas dogmatique. Peut-être qu'un jour, les prêtres... Bon, ils l'ont été pendant des siècles. On a eu du mal. D'abord, les évêques et les prêtres, il a fallu presque 10 siècles pour essayer d'obtenir un célibat qui était quand même tempéré par l'existence de la bonne du curé et puis de la maîtresse officielle de l'évêque, des maîtresses plus qu'officielles des cardinaux et des quasi-concubines et tenues comme telles de certains papes, hein, les papes de la Renaissance, qui n'étaient pas les plus bêtes. C'était pas non plus les plus vertueux. Donc la féminité, ouais, toutes les figures de notre féminité, tout ce mélange de désir, d'aspiration à la pureté, qui font que Sade rend au catholicisme une espèce d'hommage paradoxal. Pour lui, le comble de la transgression, c'est de violer une religieuse. Bon, c'est le mal suprême, c'est d'attenter à la pureté suprême, l'amour et la pureté suprême. Est incarné par la Vierge. Donc, moi, je suis très sensible au culte de la Vierge. C'est toujours vers une statue de la Vierge que je vais en priorité quand je rentre dans une église. C'est un des points qui, effectivement, me tient très éloigné de la culture protestante, fort respectable demeurant, parce que moi je tiens au culte de la Vierge, comme je tiens au culte des siens, comme je tiens au culte des reliques, et comme je tiens à l'image. Il y a une entrée image, il s'est passé quelque chose de très important pour la civilisation, tout court, occidentale. C'est au 8e siècle, le pouvoir politique essentiel, c'était à Byzance, c'était les empereurs dits romains d'Orient, et il y a eu ce qu'on appelait la querelle des iconoclastes. Ça a duré un siècle et demi. Les théologiens orientaux ont commencé à dire c'est un sacrilège que de représenter le divin, ou le Christ, ou la Vierge... C'est les apôtres et c'est saints, et donc il faut pas d'image. Et donc ils ont détruit tout l'art sacré qui imageait, c'est-à-dire les tableaux, les sculptures. Au passage, ils ont massacré un certain nombre d'artistes, qui d'ailleurs étaient des prêtres pour la plupart. Ça a duré un siècle et demi. Bon, et la papauté a fini par imposer le culte de l'image, et ça a donné l'art occidental, tout simplement. Et c'est ce qui m'éloigne aussi bien des protestants, c'est ce qui me rapproche des orthodoxes, relativement, qui éloigne des protestants, des juifs et des musulmans, qui eux aussi proscrivent la représentation du divin par l'image, et donc dont l'art existe est plutôt parti vers l'abstrait. Ben moi je suis concret. Le pain et le vin dont vous parlez, ben après tout le Christ, il pouvait très bien dire aux 12 apôtres, enfin aux 11 plutôt, chaque fois que vous vous retrouverez entre vous et que vous penserez à moi, je serai là. Mais non, il a dit, vous mangerez du pain, boudazim, c'est-à-dire le blé, la nourriture de base du bassin méditerranéen, du vin, le produit de la vigne. C'est une religion charnelle, c'est une religion du corps, c'est une religion de la matière, c'est une religion de la représentation. Et l'écrivain que je suis devenu, c'est une religion qui flatte toutes les, toutes les instances de l'imaginaire, qui fait appel à tous les... à tous les modules de notre sensualité. L'écrivain que je suis devenu ne peut qu'exprimer sa gratitude. Je me sens l'héritier comblé de ça, entre autres. C'est trop. La catholicité, c'est la foi, quoi. C'est la foi chrétienne, c'est la religiosité, toutes ces odeurs d'encens, cette ambiance de recueillement qu'on est quand on se retrouve dans une petite chapelle d'une église devant le Saint-Sacrement seul. Et c'est une civilisation, la civilisation occidentale. C'est bien autre chose que ça, puisque il y a des catholicités qui ne sont pas occidentales, qui sont africaines, qui sont latinos, qui sont asiatiques et universelles. Mais ces trois choses, moi je suis un occidental, je parle plutôt de ce que je connais, ces trois choses, j'en suis totalement, nous en sommes totalement l'héritier. Je trouve que c'est pas mal d'essayer de rappeler ça, parce qu'on ne bâtit rien de bon sur l'amnésie, et si les Français, mes compatriotes, avaient davantage conscience de leur héritage, ils auraient peut-être plus conscience en l'avenir et moins peur de l'autre, je le pense. Oui.
Ce serait presque une conclusion, mais je ne peux pas ne pas, en sous son au bout de notre entretien, mais je ne peux pas ne pas quand même évoquer la question que vous évoquez longuement de Rome, de la papauté. Et effectivement, vous affirmez votre attachement au siège apostolique, ce que faisait Mauriac aussi.
Hein. Oui, mais il n'aimait pas Rome, il n'aimait pas le Vatican.
Mais à la fin de sa vie, il disait
que Saint-Pierre avait été construit avec le fric des indulgences.
Oui. Là, bon, vous ne le dites pas.
Qui était un grand
scandale.
Vous
avez compris que Rome, bon, c'était une ville. Vous avez une description de Rome tout à fait lucide. Alors, sur la papauté, on pourrait être long, mais on ne va pas l'être, parce que je pense que les personnes souhaitent vous poser des questions et que vous signez ensuite vos ouvrages. Je pense que, bon, vous mettez en avant deux papes, si je regarde objectivement. Hein, et personnellement, je trouve ça très intéressant. Bon, il y a Léon XIII. Avec Rerum Novarum, ça, vous avez une analyse très pertinente. Et peut-être peut-on finir sur ce point, Benoît XVI. Je pense que Benoît XVI, moi aussi j'étais au Bernardin, j'ai donc pu participer à ce grand discours. Et ce que vous écrivez de Benoît XVI, je pense que ça pourrait nous servir. Alors d'abord, si vous voulez bien répondre sur la fonction papal,
en
deux mots, et sur Benoît XVI. Maintenant, si vous préférez Léon XIII, vous pouvez botter en touche.
Vraiment en deux mots, et sous votre contrôle, puisque je sais que vous êtes spécialiste de la papauté.
Oui, mais pas de Benoît XVI.
Mais c'est quelque chose sur lequel vous êtes plus compétent que moi. À partir du moment où c'est à la multitude qu'à partir de Saint Paul, les apôtres et puis leurs disciples se sont adressés, qu'on a décidé que ce n'était pas une religion d'élite, comme le souhaitaient certaines communautés judéo-chrétiennes à l'origine. Bon, on prend l'humanité telle qu'elle est, avec le mal inhérent à l'homme, ça s'appelle le péché originel, et avec les cultures. Hein. Et donc on a une église invisible, hein, qui est la communion des saints, la communion des fidèles, la communion des âmes, jusqu'à la parousie, jusqu'au salut, et on a une église visible qui se coule dans les modèles historiques dans lesquels elle évolue. La hiérarchie catholique a complètement pompé la hiérarchie politique de l'Empire romain, parce que c'était le modèle qu'elle avait sous les yeux. Elle s'est coulée successivement dans la féodalité et puis dans le principe monarchique. Elle a eu du mal à digérer la démocratie, voire la république. Elle s'y est mise à partir de Léon XIII, parce que bon, il n'y a pas de régime politique plus catholique qu'un autre, et que mon royaume n'est pas de ce monde, et qu'elle a toujours résisté à ce qui a toujours longtemps été une tentation, c'était la théocratie, c'est-à-dire la confusion du temporel et du spirituel, parce que les premiers évêques, y compris celui de Rome, dont la primauté s'est affirmée à la longue, il a fallu du mal contre les Africains, ils étaient juges de paix, ils étaient un peu maires, ils étaient un peu préfets, ils étaient un peu chefs de la police, et en même temps, ils remplissaient leurs devoirs sacerdotaux, ils baptisaient, ils confessaient, ils enterraient, ils prêchaient beaucoup, ils écrivaient à Saint-Augustin, Saint-Augustin, Saint-Ambroise à Milan, ils font tout ça. Donc, à Rome, il finit par avoir un pouvoir temporel, comme tous ceux qui possèdent un pouvoir temporel. Ce sont des hommes, certains en usent, certains en abusent. On a une histoire, c'est pour ça que j'ai une entrée aventure. L'aventure de 20 siècles de papauté, c'est dingue. Il y a des papes sublimes, il y a des papes médiocres, il y a des papes indignes, il y a des salauds finis, il y a des pauvres types. Depuis le XVIIe siècle, il n'y a plus de papes indignes. Il y a les papes de la Renaissance, dont Alexandre VI est resté célèbre avec ses débauches avec sa fille Lucrèce et son Borgia et son fils César. Il y a eu au IXe siècle une série de papes autour de Marusia, une espèce de garce de haut vol qui était. Elle a eu son pape, elle a dû avoir son mari, son fils, son petit-fils successivement. Enfin, la papauté était déconsidérée. Elle l'a beaucoup été au XIVe siècle quand il y a eu deux papes à Rome. Enfin, quand ils pouvaient être à Rome, ils n'y étaient pas si souvent que ça. Parce qu'il y avait le peuple romain, puis il y avait les patriciens romains, les Orsini, les Colonna, les Borghese, qui voulaient le pouvoir aussi. Et puis il y en avait à Avignon. À un moment, il y en a même trois. C'est un bordel dont est sortie la Renaissance. Parce que si on y ajoute les indulgences, en fait, qui sont appelées le Nicolaïsme, la Simonie, ça faisait beaucoup. Et puis après, il y a eu ces papes modernes, ce concile de Trente, qui est en fait le catholicisme dans lequel on a été élevé, en gros. Ce Léon XIII, quand même admirable, parce que c'était un patricien romain très hautain, très imbu de ses prérogatives sacerdotales, évidemment monarchiste de tempérament, anti-plébéien au possible, mais enfin il a compris que l'Église ne soit que d'abord que l'État temporel n'y en avait plus pour longtemps, hein, c'était déjà tout petit, et un peu en plus que l'Église serait plus si elle refusait la démocratie et éventuellement la République. Et donc il a. Les catholiques français ont eu du mal, notamment, parce qu'ils étaient en bisbille, histoire du père Combes, tout ça, ben il a imposé. Et en plus, il a découvert que le sort fait au prolétariat était indigne et que le capitalisme libéral présentait des excès tels que si on ne le dénonçait pas, l'Église ne serait plus au service des pauvres et manquerait à sa mission, car au fond, elle l'a toujours été. Elle a fait la sécu, elle a fait l'assistance sociale, elle a fait le domaine hospitalier, la santé publique pendant 19 siècles, jusqu'à ce que ça soit les États modernes qui en prennent. Elle a assuré ça toute seule. Elle a été la seule au monde. Il n'y a pas d'autre religion qui ait fait ça. Autant. Quand je dis l'Église, là, pour le coup, j'y associe à partir du XVIe siècle les protestants, bien entendu. Donc c'est tout ça. Alors la papauté, et je trouve, c'est très bien. Il y a un pape, son infaillibilité, ça ne veut pas dire que toute conscience a le droit de considérer que sur tel ou tel sujet, le pape dit une connerie. Bon, alors il n'engage sa parole, et la fameuse infaillibilité pontificale proclamée au mauvais moment par Innocent IX, c'est simplement quand c'est sur un texte dogmatique. Ça ne veut pas dire qu'il a toujours raison, ce n'est qu'un homme. Ça veut dire j'accepte que ma conscience, ma raison se soumettent au verbe de ce magistère, parce que le verbe de ce magistère est plus important que ma propre voix. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, quand je suis à Rome, je suis toujours ému. Il y a une espèce de pérennité. Moi, j'aime les siècles des siècles, cette espèce de ressac qui fait que jamais un théologien du 3e ou du 8e siècle ne sera dépassé. Hein, les âmes, ça sort de l'espace-temps, hein, comme disait Guiton. Si l'Église visible a erré beaucoup et quelquefois monstrueusement, le fil de l'Église invisible ramène toujours à une espèce de vérité qui fait que j'ai pleine confiance en son avenir. Et j'en suis convaincu qu'elle s'en sortira au prix de métamorphoses considérables. Je disais tout à l'heure qu'on a pensé longtemps, on continue, et même Vatican II, on continue à penser le divin. Avec Aristote et Platon, en gros, hein, parce que c'est la jonction de la pensée grecque et du message évangélique, le christianisme. Un jour, on pensera le divin, on aura des relations avec l'invisible sur un tout autre registre émotionnel et conceptuel, je ne sais pas lequel. Mais l'Église sera toujours là, il y aura des métamorphoses. L'Église a essaimé à partir de l'Occident, Italie, France, Espagne quand même, un peu l'Angleterre pour l'essentiel, et Flandre. Et Flandre et Rhin, Danube. Bon, mais aujourd'hui, l'Église, les grands pays catholiques, c'est 1, le Brésil, 2, le Mexique, 3, les Philippines, 4, je crois, l'Angola, Rome est dans Rome, mais n'est plus dans Rome en même temps. Et c'est très bien. Il vient de se créer le mois dernier, à l'initiative des jésuites, un séminaire au fin fond de la Chine. Et Dieu sait que les catholiques chinois qui ne se soumettent pas à la fausse Église officielle, néo-stalinienne, sont persécutés, il y a 120 novices qui se sont présentés, les Shintok. Et bon, ça, c'est 1,3 milliard de fidèles, un titre ou un autre, plus ou moins baptisés, avec des cultures, des messes au tam-tam, des cantiques. Moi, j'ai assisté dans des églises du Sénégal, du très beau grégorien écrit par des musiciens africains, avec le grégorien qui est sorti au 8e siècle, un peu de Saint-Gorce vers Metz, un peu des influences visigothes, un peu de Byzance. Et ben, il a mis ça à la sauce avec du balafon, ça, il a mis ça à la sauce sérère. Les catholiques au Sénégal sont autosérères, et ça donne des offices. C'était chez des dominicains, des prêtres africains dominicains. Ça donne des messes formidables. Je me sentais chez moi autant que dans l'église où j'ai servi la messe et où je continue d'aller y assister les dimanches. Donc, notre civilisation deviendra ce qu'elle deviendra. Je ne suis pas très optimiste. Autre débat, mais l'église catholique, pas de soucis sur la durée. Me semble-t-il.
Écoutez, je crois que c'est une belle conclusion.
En tout cas, merci de votre patience et de votre attention, et bonne soirée.